Camille Ornillet, il est 12h30 dans Universel et à Nouakchott, 14h30 ici à Paris. Le journal tout de suite avec Nicolas Brousse. Toute l'actu africaine, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. La Mauritanie se dirige-t-elle vers le changement ou la continuité? On devrait bientôt être fixé avec les résultats attendus du premier tour de la présidentielle. Notre envoyé spécial sera en direct de la commission électorale mauritanienne. La République démocratique du Congo n'est plus belge depuis maintenant 64 ans. Fête de l'indépendance ce dimanche, mais dans un contexte sécuritaire encore un peu plus dégradé dans l'est du pays. Un contexte que n'a pas éludé le président Tshisekedi dans son discours à la Nation. Assure également la CEDEAO qui remet sur la table son projet de force en attente pour lutter contre le terrorisme. Et puis 54 milliards de dollars, montant des transferts d'argent réalisés en 2023 par les ressortissants africains. Nous vous dirons quels sont les pays qui en profitent le plus. Afrique Midi, une demi-heure d'actualité africaine, bienvenue. On tourne ensemble la première page. La Mauritanie était hier à l'heure du choix, aujourd'hui à l'heure du décompte des voix. Un peu plus d'1 900 000 électeurs étaient appelés à élire leur président pour les 5 prochaines années. Hier, avec 7 candidats en lice, dont le chef de l'État sortant, candidat à un deuxième mandat, et ses 2 principaux opposants. Léa Lisa Vesteroff, vous êtes en direct de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, où c'est maintenant la dernière étape, la compilation des résultats est en cours. Léa Lisa Vesteroff qui visiblement ne nous entend pas. Oui, Léa Lisa, on vous entend.
Bon, je disais, à la CENI, c'est en effet la dernière ligne droite, hein, puisqu'après le vote qui a eu lieu dans les 4504 bureaux de vote dans tout le pays, il faut maintenant rassembler tous ces résultats. C'est la commission électorale qui se charge de ce travail. Elle se sait très attendue hein, sur les questions de transparence. C'est pourquoi, spécificité pour cette présidentielle, la CENI publie quasiment en temps réel l'avancement de cette compilation sur un site en ligne du nom de MyCENI. À l'heure où je vous parle, un peu plus de 82% des résultats des bureaux de vote ont été donc dépouillés et compilés. D'ici ce soir, on devrait donc avoir normalement 100% des résultats officiels. Il faut donc s'armer encore un peu de patience. Ce qui retarde un peu cette compilation, selon la CENI, ce sont les quelques bureaux de vote qui n'ont pas de connexion Internet suffisante pour transmettre le procès-verbal et le détail de la résultat par Internet. Cette transmission se fait par SMS et met donc plus de temps à arriver. Mais autre nouveauté cette année, tous les procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote sont également publiés en ligne sur ce site. Les électeurs devraient donc avoir accès à l'ensemble des résultats bruts pour pouvoir les comparer aux résultats officiels. Enfin, dernière information, le taux de participation, hein, il se situe à un peu plus de 54% sur l'ensemble du pays, selon la CENI, un chiffre qui pourrait encore légèrement varier en fonction des derniers résultats.
Et puis, puisque notre connexion à nous tient, je rajoute cette question, Léa Lisa, est-ce que cette démarche de transparence avec ce site internet de la CENI, est-ce que cette démarche satisfait les candidats ?
Alors pour l'heure, seul l'opposant, hein, Biram Daha Abeid, arrivé second lors des 2 dernières présidentielles, s'est exprimé sur le sujet lors d'une conférence de presse tard hier soir. Il dit ne pas avoir confiance dans le processus informatique, le processus électronique de la commission électorale. Il dénonce, je cite, un hold-up électoral et conteste les résultats mis en ligne par cette commission électorale. Du côté du parti islamiste du Tawassoul, l'autre grand challenger, le candidat Hamadi Sidi Mokhtar n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais son parti affirme mener en parallèle son propre décompte des voix à partir des procès-verbaux remis aux représentants de leur parti et qui étaient présents au dépouillement dans les différents bureaux de vote. Le parti Tawassoul dit avoir compilé 70% des résultats à la mi-journée et salue les efforts de transparence de la commission électorale. Il y a des progrès par rapport à 2019, m'a dit le directeur de campagne de Tawassoul, Hamdi Biraïm.
Léa Lisa Vesteroff, en direct de Nouakchott pour Radio France Internationale. La RDC célèbre aujourd'hui le 64e anniversaire de son indépendance, comme le veut la tradition. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dès la veille et cette année dans un contexte sécuritaire tendu par la prise de contrôle par les rebelles du M23 de la ville clé de Kanyabayonga au nord Kivu, une situation qu'a abordée hier soir le président congolais.
À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans, représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité.
Vous venez d'entendre le président Félix Tshisekedi qui, selon Hervé Diakhessé, porte-parole d'Ensemble pour la République, la formation de Moïse Katumbi, et après ce nouveau recul de l'armée congolaise au Nord Kivu, doit faire preuve de plus de transparence sur la stratégie militaire mise en œuvre. On l'écoute.
Le président doit nous fixer sur les hiatus, la contradiction qu'il y a entre les affirmations du gouvernement et les siennes sur la montée en puissance de nos troupes et le fait que, malheureusement, de plus en plus, nous sommes en train de perdre du terrain. Donc, qu'est-ce qui est réellement fait pour nos troupes sur terrain? Quels sont les moyens réels qui sont mis à leur disposition? Dans la mesure où on nous avait dit que nous étions d'abord bloqués par un embargo sur les armes et que par après, on a doté nos troupes de tous les moyens nécessaires, y a-t-il un problème de dysfonctionnement dans le commandement? Y a-t-il un problème de ravitaillement de troupes? Y a-t-il un problème de motivation de nos troupes? Est-ce qu'il y a un problème de stratégie générale? Et ça, c'est des problèmes qui doivent avoir des réponses et rapidement.
Hervé Diakhessé, joint par Guillaume Fabry, et après Kanyabayonga, puis Kaina, les rebelles du M23 soutenus par la Rwanda poursuivent leur avancée vers Butembo. Ils ont pris ce matin l'agglomération de Kirumba, une ville de 85 000 habitants. Pour prolonger ce dossier sur le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, rendez-vous sur RFI.fr. Vous y retrouverez un entretien avec Léon Kanga, un ancien compagnon de Patrice Lumumba qui a 88 ans, se souvient très bien de l'indépendance. Entretien réalisé à Kisangani par notre correspondant Joseph Kaongo et à retrouver donc sur RFI.fr et nos applications. Les Français votent ce dimanche pour le premier tour des législatives anticipées. Vous avez pu l'entendre ces derniers jours sur RFI, il y a beaucoup d'enjeux, le résultat pourrait être inédit. Alors en France, la mobilisation est en hausse, plus de 25,9% de participation à la mi-journée. Mais qu'en est-il des Français de l'étranger? En Côte d'Ivoire par exemple, la participation des expatriés ayant voté en ligne est déjà supérieure à la participation totale aux dernières européennes. Il faut le dire, elle n'avait atteint que 11%. Et ce matin, au consulat d'Abidjan, qui jouxte l'ambassade française dans le quartier du Plateau, les électeurs qui ont préféré voter en présentiel faisaient la queue dès l'ouverture. Reportage de notre correspondante Marine Janin.
C'est un moment important pour la France. C'est important de se déplacer, de savoir ce qu'on va choisir, et même quand on habite en Côte d'Ivoire.
La mécanique est bien rodée, depuis la fouille et le portique de sécurité jusqu'aux électeurs, répartis entre les tables du bureau de vote par ordre alphabétique. Et depuis 8 heures ce dimanche matin, le flux des votants ne tarit pas. Pour Sophie Leut, expatriée depuis 30 ans, ces élections législatives font l'objet d'un intérêt inédit chez les Français de l'étranger.
Depuis plus longtemps on est ici, plus la distance avec ce qui se passe là-bas. Ça grandit, mais quand même. Je pense que là, il y a un vrai enjeu quand même. Donc on se recrute. J'étais quand même étonnée de voir du monde à 8h30 du matin. Je me suis dit, là, je vais être tranquille. Il y a quand même du monde. Les gens se sentent concernés sur ce coup-là.
Une impression confirmée par le consul général Philippe Collin. D'autant plus, signale-t-il, que les électeurs ont privilégié le vote électronique.
Il y a la possibilité de voter par Internet qui a été utilisée par 2365 inscrits. À Abidjan, 17% des inscrits. C'est plus que le taux de participation aux précédentes législatives en 2022. Donc on attend maintenant les participations vote à l'urne, en plus des procurations, environ 140 procurations qui ont été déposées. Mais on ne s'attend pas non plus à une présence en masse des électeurs.
Les Français d'Abidjan ont jusqu'à 18h pour aller voter, heure de fermeture du bureau de vote. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Ce soir et demain matin, RFI sera en édition spéciale pour les résultats. Premières estimations attendues dès 20h pile, heure de Paris. En Centrafrique, la coalition des Patriotes pour le changement a revendiqué hier une attaque meurtrière contre les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes de Wagner. Cette attaque, qui leur aurait permis de mettre la main sur des équipements militaires, se serait déroulée dans le village de Gouya, situé dans la préfecture de Ouaka. Toujours selon les rebelles de la CPC, elle a causé des pertes humaines importantes, mais aucun bilan précis n'a été communiqué. Nous avons contacté les autorités militaires centrafricaines, mais elles n'ont pas donné suite. Dans une semaine, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent en sommet à Abuja. En attendant, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest réactive son projet de force en attente, revu et corrigé pour se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. C'était l'un des grands dossiers sur la table des ministres de la Défense et des Finances des pays de l'organisation régionale qui se sont retrouvés déjà cette semaine dans la capitale nigériane. Confirmation avec notre correspondant régional Serge Daniel.
Pour la force régionale en attente, nouvelle version de configuration possible. Selon Mohamed Badarou Aboubakar, ministre nigérien de la Défense, l'une implique 5000 hommes, son coût 2,6 milliards de dollars par an. Seconde hypothèse, une force en attente composée de 1500 soldats. Pour fonctionner, il faudra trouver près de 500 millions de dollars chaque année. Le Nigeria, dont le chef de l'État est président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, insiste, le principal mandat de la force en attente ne sera plus le renversement des régimes issus des coups d'État, mais la lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dirigés par des putschistes et qui ont claqué la porte de la CEDEAO, sont invités à participer à cette force. Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, justifie cette décision. Je cite, « Bien que des pays sont sous sanctions, ils devraient être autorisés à participer aux réunions liées à la sécurité. » Fin de citation. Mais lors de cette importante réunion, les places de ces trois pays sont restées vides. Ils n'ont pas répondu présents. Serge Daniel, Lagos, RFI.
Au Kenya, Human Rights Watch a revu à la hausse hier le bilan des manifestations de mardi dernier. Au moins 30 morts parmi ceux qui protestaient contre l'instauration de nouvelles taxes. Le lendemain, le président Ruto annonçait le retrait du projet de budget et appelait à une concertation avec la jeunesse à l'origine de la contestation. Mais ces deux semaines de protestation laissent des traces indélébiles, notamment bien sûr pour les familles des victimes. Reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Evans Kiratu fait partie des premiers manifestants à avoir été tués. Selon un témoin, ce jeune de 21 ans a reçu un tir de capsule lacrymogène lors de la manifestation du jeudi 20 juin. Il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. Sa mère, Anna Wanjiru Weisanji, demande l'ouverture d'une enquête et a un message pour les forces de l'ordre.
Arrêtez de tirer des gaz lacrymogènes sur nos jeunes. La police déploie trop de force envers la jeunesse qui manifeste. Ceux qui descendent dans la rue se battent pour leurs droits. Tant qu'ils le font dans la paix, ça ne devrait pas être un problème.
Après la répression des manifestations de mardi, de nombreux blessés ont afflué dans les hôpitaux de Nairobi. Simon Gikundu est gynécologue et président de l'Association des médecins du Kenya. Il leur a rendu visite samedi dans le principal hôpital public de la capitale.
Le Kenyatta National Hospital s'est occupé de beaucoup de blessés. Le personnel médical estimait dès jeudi leur nombre à plus de 135. Il y a eu des blessés qui ont reçu des tirs de balles réelles, d'autres des tirs de balles en caoutchouc, d'autres qui ont été battus et enfin certains qui se sont blessés en essayant de fuir. La majorité a été soignée et récupère à l'hôpital. Certains ont déjà été renvoyés chez eux.
L'usage de la force par la police lors des manifestations a fait l'objet de nombreuses condamnations cette semaine, tirer directement sur la foule sans justification, y compris lorsque des manifestants tentent de fuir, est totalement inacceptable, a rappelé l'ONG Human Rights Watch. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Je vous le disais en titre, 54 milliards de dollars, c'est le montant des transferts d'argent effectués l'année dernière par les ressortissants africains installés dans un pays étranger, que ce soit un autre pays africain ou en dehors du continent. La somme est stable et ces transferts restent plus que jamais un pilier des économies africaines. Quelles sont celles qui en profitent le plus, Claire Fage?
Le Nigeria est le premier pays africain bénéficiaire des transferts d'argent. 19,5 milliards de dollars l'an dernier. Viennent ensuite le Ghana et le Kenya avec plus de 4 milliards. Le Sénégal arrive en cinquième position avec près de 3 milliards de dollars de transferts devant la RDC et le Mali qui ont reçu plus d'un milliard de dollars chacun de leurs expatriés. Si le montant total stagne depuis 2 ans, les transferts d'argent contribuent aujourd'hui autant aux économies africaines que l'aide au développement qui a chuté ces dernières années. Ils pèsent 2,5 fois et plus que les investissements étrangers qui ont plongé sur le continent. C'est donc un vrai soulagement pour des pays en grave crise de liquidité depuis le Covid, qu'ont suivi les guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Les transferts pèsent ainsi plus de 20% du produit intérieur brut de la Gambie ou des Comores, plus de 9% du PIB du Sénégal et plus de 7% du PIB du Togo. Leur coût est malheureusement encore trop élevé. Les expatriés africains doivent s'acquitter en moyenne de 8% de frais sur ces transferts d'argent, un coût qui peut dépasser 30% entre deux pays du continent.
Claire Fage, du football avec l'Euro en Allemagne, que vous êtes nombreux, je le sais, à suivre sur le continent, notamment au Sénégal, car si la Suisse est en quart de finale, après avoir écarté l'Italie hier, c'est entre autres grâce à son jeune attaquant d'origine sénégalaise, Dan Doy. C'est lui qui avait marqué le but de la Nati lors de la troisième journée dans le groupe A contre l'Allemagne. Les Suisses avaient ainsi assuré leur qualification pour les huitièmes. Dan Doy a donc le niveau pour jouer avec les Lions au Sénégal, le niveau et l'envie, sauf que son appel n'a pas été entendu par le sélectionneur Aliou Cissé. Et à Dakar, les supporters rencontrés par notre correspondant Babacar Fall le regrettent nettement.
Dan Doy, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui face à l'Italie.
Ami, Mor, Pape et Omar, quatre supporters des Lions qui sont fans de Dan Doy.
Il avait marqué contre l'Allemagne. C'est lui qui a tenu en échec la Mannschaft.
Il a joué des bons matchs.
Il est en train de jouer un très bon euro.
Dan Doy est une très belle surprise pour moi.
Et tous louent les qualités techniques de l'attaquant suisse.
Il aime provoquer, il joue très bien au ballon au pied.
C'est un joueur assez percutant, il fait tout ce qu'on demande à un ailier.
À l'été 2022, alors qu'il était en vacances à Dakar, le joueur de Bologne, qui évoluait encore avec les équipes nationales jeunes de la Suisse, avait déclaré qu'il avait envie d'être sélectionné chez les Lions, mais Aliou Cissé ne l'a jamais appelé. Erreur, selon les supporters de l'équipe du Sénégal.
Même les journalistes ont suggéré à Aliou pour qu'il prenne ce jeune gosse, mais Aliou Cissé a négligé. Hein.
Ce gars-là, si on l'avait, ça sera un truc de dingue.
L'équipe nationale du Sénégal, sur le côté gauche, c'est Sadio Mané qui a le monopole, mais malheureusement, il est en train de décliner à cause de l'âge et des nombreuses années au haut niveau. Et avoir un garçon comme Dan Doy aurait pu nous aider pour assurer la relève.
Aliou Cissé, en poste depuis près de 10 ans, a toutefois intégré dans son équipe plusieurs autres binationaux comme son capitaine Kalidou Koulibaly. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Une rencontre à présent avec l'humoriste congolais Herman Amissi. Il joue ce soir pour la première fois en France son spectacle au Casino de Paris. Un spectacle qui s'intitule « Surveillez le fleuve ». Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Sa petite phrase devenue virale a fait grimper en flèche sa cote de popularité. Pauline Azidi, vous l'avez rencontré à Paris pour percer le secret de l'humour congolais.
L'humour congolais, c'est quoi? C'est un peu de la provocation. En tout cas, ça, c'est une particularité qu'a le Congolais. Le Congolais, qui t'aime, il te provoque.
Et c'est cet humour congolais que veut faire découvrir au public français Herman Amissi, son créneau, l'observation de la société. Et en quelques jours, on peut dire qu'il a saisi l'esprit des Parisiens.
Vous êtes pressés, on ne sait pas vous allez où. Tout le monde marche rapidement à la descente des métros. Chacun est pressé à la montée des métros. Chacun, tout le monde est pressé, mais on s'est dit vous allez où? Toutes ces choses qu'on est en train de découvrir et qu'on essaie de comprendre et vous le redonner en fait d'une manière humoristique.
Mais plus que les différences, c'est autour de son concept qui se veut unificateur, surveiller le fleuve, qu'il a construit ce nouveau spectacle. Une phrase lâchée au début de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et qui a eu un retentissement continental.
C'est parti dans toute l'Afrique et ça devient un concept symbolique, en fait symbolisant l'amour. Tout de suite, on lance surveiller le fleuve, il fallait voir la réaction des autres pays. Le centrafricain qui ne cessait de raconter, en fait, qui ne cessait d'appeler et dire oui, il n'y a pas seulement les Brazzavillois qui doivent surveiller le fleuve, on doit aussi surveiller la rivière Ubangi. Il y a les Angolais qui appelaient, c'est-à-dire chaque pays qui appelait, les habitants de chaque pays qui nous contactaient voulaient en fait qu'on adapte surveiller le fleuve à leur pays. Donc tout de suite, tu comprends que nous formons tous une seule Afrique et on est un seul peuple.
Normalement, Herman Amissi laisse un peu la politique de côté, mais avec un début de spectacle à 20h, pile au moment où les résultats des élections législatives françaises vont tomber, il promet à son public une petite surprise.
Herman Amissi au Casino de Paris où il est 14h49.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Dimanche 30 juin, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition dans vos oreilles, l'écrivain Éric Mukendi, croisé sur les chemins d'écriture de Tirthan Karchanda. Les têtes d'affiche de Denise Epoté, elles nous viennent cette semaine du Kenya pour des améliorations dans les domaines agricoles et de la santé mentale. Et puis 100% création à la rencontre d'Elia Pradel, créatrice de bijoux upcyclés, c'est-à-dire qu'elle revalorise des bijoux anciens pour créer des pièces uniques et modernes. Rien ne se perd, tout se transforme. Le franco-congolais Eric Mukendi est dans Chemin d'écriture aujourd'hui. L'écrivain s'était fait connaître l'année dernière en publiant son premier roman, Mes deux papas, un récit sur les heurts et malheurs du multiculturalisme, doublé d'une éducation sentimentale dans la France du XXIe siècle, qui avait déjà beaucoup plu à Tirthankar Chanda. Bonjour Tirthankar.
Bonjour à toutes et à tous.
L'auteur vient de publier Le blues du dimanche soir, qui est un recueil de trois nouvelles, soit trois variations sur la solitude et l'amour, comme le rappelle l'éditeur dans sa description du livre. Mais pour commencer, deux mots peut-être, Tirthankar, sur Eric Mukendi.
Installé en France depuis l'âge de 7 ans, Eric Mukendi est romancier. Nous avions parlé de son premier roman, Mes deux papas, dans cette chronique. Les trois nouvelles qui composent le nouveau livre de Mukendi confirment sa belle maîtrise de l'art de la narration romanesque.
Que racontent ces nouvelles du blues du dimanche soir ?
Elles racontent des vies revues et corrigées à travers le prisme de la mémoire. Ce sont des histoires d'amour avec leur pesant de fantasmes qui se réalisent ou ne se réalisent pas. Eric Mukendi.
Au départ, c'était un recueil de 5 nouvelles. Je voulais faire un recueil assez éclaté avec des styles différents. C'est la maison d'édition qui en a choisi 3. Et d'une certaine manière, ils ont bien fait parce que je trouve qu'il y a une belle cohérence entre ces 3 nouvelles.
Et qu'est-ce qui fait que ces 3 nouvelles fonctionnent si bien ensemble ?
Cela s'explique sans doute par leur thématique commune de la rencontre. Cette rencontre est sexuelle, intellectuelle et voire métaphysique, notamment dans la dernière nouvelle où il est question de la résurrection et de l'après-vie.
Et votre nouvelle préférée est, je crois, Tirthankar, la deuxième.
En effet, c'est sans doute la plus subtile et la plus littéraire aussi. On y fait la connaissance de Robert, le vigile surdiplômé qui rencontre Annie, prof de lettres. Dans la description de la rencontre du couple, il y a de la séduction et peut-être promesse de plus si affinité. Puis patatras, la promesse vient se fracasser sur le mur d'un différend littéraire et historique concernant le célèbre voyage au Congo d'André Gide qui, on s'entend, avait fait scandale en levant le voile sur la réalité des relations euro-africaines. Mais pour Robert, l'écrivain n'en est pas moins resté prisonnier de ses préjugés. Comment digérer tant d'outrecuidance de la part d'un simple vigile ? Cela va mettre fin à l'espoir de ce dernier de séduire la belle française. Eric Mukendi.
Pour moi, ces trois nouvelles, ça parle de place que les rencontres jouent dans la vie. Des personnages qui sont un peu dans une vie qui ne leur convient pas d'une certaine manière et qui sont obligés de faire avec. Je voulais traduire cette frustration et cette tension vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'idéal et puis en même temps faire face au quotidien que je voulais raconter. Pour les deux premières, la troisième, c'était plutôt raconter une histoire qui mêle le policier, le fantastique et même un peu le métaphysique. La troisième est un peu différente, même si on retrouve un personnage masculin qui est pris dans une situation qui le dépasse.
Et on note que tous ces personnages sont en fait en quête d'idéal.
Ils sont en effet en quête d'un idéal de justice et de fraternité, une quête qui fonde l'écriture même d'Eric Mukendi.
Je sais bien que ce qui compte d'abord dans la littérature, c'est d'abord le style, c'est d'abord comment on écrit. Et c'est pas une histoire morale, c'est pas une histoire de morale. Mais je pense pas que l'esthétique littéraire aille sans une conception morale de l'œuvre non plus, je crois pas.
C'est cette conviction qui a conduit le Congolais, comme il l'a confié au micro de RFI, à faire de Tolstoï son écrivain de chevet, dans l'espoir peut-être de trouver chez l'auteur de Guerre et paix la confirmation de son art poétique, dédié à dire la vision d'un monde réconcilié à son être profond.
Les blues du dimanche soir d'Eric Mukendi apparu aux éditions Gallimard, c'est le coup de cœur de Tirthankar Chanda. Tout de suite, d'autres coups de cœur, ceux de Denis Zépoté, nos têtes d'affiche. Bonjour Denis Zépoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Deux innovateurs originaires du Kenya sont à l'honneur cette semaine. Le premier, Kizito Odhiambo, possède un certificat en comptabilité publique obtenu à l'université de Strathmore au Kenya et un diplôme d'ingénieur en génie électrique et technologie de l'information de l'université de Darmstadt en Allemagne. Sa plateforme Agribora assure visibilité, accessibilité et bancabilité aux petits agriculteurs qui jouent un rôle central pour la sécurité alimentaire du continent.
À Darmstadt, Kizito Odhiambo rêvait de travailler dans l'industrie automobile. Mais les conditions de vie des petits agriculteurs du lac Victoria au Kenya lui ont fait changer d'avis. Il décide alors de concevoir une plateforme numérique pour leur permettre d'améliorer leur récolte et leur garantir des revenus. Agribora, composé du grec agros, qui veut dire champ, et de bora, qui en swahili signifie mieux, la start-up met en relation de petits agriculteurs et leur fournit des informations météorologiques afin de savoir quand semer et récolter. Pour cela, Gribaura utilise les données satellites de l'Agence spatiale européenne. La plateforme accorde également des crédits aux petits agriculteurs. 60% des 12 000 agriculteurs enregistrés sur la plateforme sont des femmes. À terme, 30 millions d'agriculteurs sur le continent pourraient avoir accès aux services d'Agribaura. L'objectif de Kizito Odhiambo est de transformer l'Afrique en une puissance agricole mondiale.
Denise, vous nous présentez à présent Marianne Wamuyu Wanjoi. Elle est également originaire du Kenya. Elle possède 3 masters en hospitalité de luxe, en technologie et en innovation numérique. Elle a conçu Talia, une plateforme qui, grâce à l'intelligence artificielle, rend les services de santé mentale accessibles à tous en éliminant les barrières de la distance et de la stigmatisation. Des programmes spécifiques sont dédiés aux femmes, aux élèves et aux militaires ainsi qu'aux travailleurs.
En Afrique, la santé mentale est une crise éclipsée. Cependant, elle a de profondes implications, non seulement sur la vie des individus, mais également sur la vitalité économique du continent. Des études récentes indiquent que près d'un Africain sur 4 souffre de troubles de santé mentale, mais la grande majorité n'a pas accès aux traitements appropriés. Cette lacune en matière de soins engendre un cycle de pauvreté, de baisse de productivité et d'aggravation des défis sociaux qui affectent des communautés et des économies entières. Les familles sont confrontées non seulement au fardeau émotionnel et physique en raison du soutien à leurs proches, mais également au fardeau financier lié à la recherche de soins dans des systèmes mal équipés pour les fournir. Aussi, l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire n'est pas une nécessité, mais une urgence. Elle doit être traitée avec la même importance que la santé physique. Une intervention précoce peut considérablement réduire les coûts sociaux et économiques et transformer des vies entières. L'objectif de Marianne Wayumu Wanjoi est que la santé mentale cesse d'être une épidémie silencieuse pour être la pierre angulaire de soins complets. Le réseau Talia devrait compter 25 000 professionnels en 2025. En 2026, 100 000 centres de santé seront en mesure de fournir des services de santé mentale. Lors d'Africa Tech 2024, Talia a remporté le prix de la meilleure start-up dans la catégorie e-santé.
Les têtes d'affiche de Denise Epoter, retrouvez quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain. Et tout de suite, 100% création à la rencontre d'Elia Pradel avec sa marque Anissé. Elle revalorise des bijoux anciens pour en faire des pièces uniques et modernes.
La création pour moi ne s'arrête pas du tout aux bijoux. C'est une création qui est un peu 360, donc j'explore aussi d'autres médiums. Se mettre dans une bulle de création, ça c'est important et nécessaire.
Elia Pradel, fondatrice d'Anissé.
Quand j'ai lancé la marque, je voulais un lien avec la Guadeloupe, et c'est le deuxième nom de mon papa. Il y avait aussi cette volonté d'un nom mixte. Dans ce qu'on propose en tout cas, on souhaite que nos bijoux n'aient pas un genre déterminé, attitré. Et Anissé, c'est aussi l'anagramme de Enchant en anglais, donc comme on travaille des bijoux anciens, c'est de là que ça vient.
Elia Pradel est née et a grandi en Guadeloupe. Passionnée par la création de bijoux, dès l'âge de 13 ans, elle en conçoit et organise même des rencontres pour les vendre. Elle fait une école de commerce, puis travaille en accompagnant des auto-entrepreneurs. En parallèle de ce premier emploi, elle suit des cours pour se former aux techniques de base de la bijouterie. C'est comme ça qu'elle rencontre beaucoup de particuliers et qu'elle récupère des bijoux anciens. Sa marque Anissé est lancée en 2020. Cet autodidacte donne une seconde vie aux bijoux des années 70 à 2000 en les modernisant.
Dans l'ADN même de nos créations, on va beaucoup retrouver des mailles assez sculpturales, des jeux de contraste, mélange d'or et d'argent, ces asymétries de pièces, ces mélanges de mailles très fortes avec des mailles beaucoup plus romantiques. Comme on retravaille des bijoux anciens, donc en termes d'exigence, ça va vraiment être sur la qualité des matériaux qu'on va proposer. J'aime bien dire qu'on crée des bijoux qui ont appartenu au passé, qu'on porte au présent et que potentiellement on peut transmettre. Ce que ça coûte, c'est l'exigence de la création et l'exigence d'être à la fois créateur et entrepreneur. Ça, c'est la réalité du monde de la création aussi.
Elia Pradel propose des créations durables, sur mesure, ainsi qu'un travail de sensibilisation en collaboration avec de grandes maisons de luxe.
On a travaillé avec la maison Chanel à partir de leur stock dormant pour organiser des ateliers d'upcycling pour leurs clients VIP ou les collaborateurs de l'entreprise et à destination des grands publics. On fait aussi ce travail de co-développement, de création et de pièces à partir des fins de stock des maisons. On va co-concevoir des pièces ensemble et une collection. Ça nous permet vraiment de sensibiliser le plus grand nombre à cette pratique d'upcycling et montrer qu'on peut aussi regarder autrement tout ce qu'on a sous la main pour créer.
Retrouvez l'univers d'Anissé sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et 100% création, c'est comme chaque dimanche avec Maria Afonso. Fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais, c'est aussi ça. La richesse de Radio France Internationale. N'oubliez pas que dès 20h, heure de Paris, nous serons en édition spéciale pour les résultats du premier tour des législatives en France. Merci d'écouter RFI.